VOA Afrique, les infos. À Washington.
Michel Joseph et Chérubin Gaby Dorcil en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 15 août 2016. Au sommaire ce soir, Gaby.
Massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. La société civile compte désormais 51 civils tués à Beni. Des rebelles ougandais sont pointés du doigt.
Présidentielle en Zambie, l'opposant Hichilema, battu d'un peu plus de 2 points par le président sortant Edgar Lungu, entend contester les résultats devant la justice.
Ici aux États-Unis, nouvelle nuit de violence à Milwaukee dans le Wisconsin après la mort de Noirs abattus par la police.
Campagne électorale américaine, le candidat républicain Donald Trump présente ce lundi son plan de lutte contre le terrorisme.
Plein feu sur les Jeux Olympiques de Rio.
Juste après le journal.
Les filles de Chibok, kidnappées depuis 2014, ont été vues dans une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche. Boko Haram affirme que plusieurs jeunes filles sont mortes et exige un échange de prisonniers pour libérer les captives encore vivantes. Nanit Talani, les détails.
La vidéo de 11 minutes montre un homme masqué avec des dizaines de jeunes femmes fatiguées portant le foulard, assises et debout derrière lui. En langue Hausa, l'homme appelle le gouvernement nigérian à libérer les gens que les autorités détiennent à Abuja, Lagos et Maïdougouri. Mais la vidéo se termine par des images graphiques de cadavres sanglants. L'homme masqué dit qu'il s'agit des filles Chibok tuées par des frappes aériennes nigérianes. Pour les parents, cette vidéo prouve que certaines des filles sont encore en vie. Olatunde Olarewaju, l'un des leaders du groupe Bring Back Our Girls, considère la vidéo comme un chantage, mais aussi comme une occasion d'engager le dialogue en vue de leur libération. Aujourd'hui, l'armée nigériane a lancé un avis de recherche contre Ahmed Bolori, Aisha Wakil et le journaliste Ahmad Salkida pour recel d'informations concernant les lycéennes de Chibok. Selon le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, ces 3 personnes sont recherchées pour leurs relations et contacts présumés avec Boko Haram, étant donné leur lien avec les 2 dernières vidéos diffusées par ce groupe terroriste.
51 morts, tel est le nouveau bilan établi par la société civile suite au massacre survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la RDC, une attaque que l'armée congolaise attribue à des rebelles ougandais. Les précisions de Tatiana Mosso.
Notre équipe sur le terrain a comptabilisé 51 tués à la machette, a déclaré Teddy Kataliko, membre de la coordination de la société civile de Beni. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende estime que la société civile avance un bilan qui n'est pas objectivement vérifiable. Dimanche, le gouvernement a proclamé un deuil national de 3 jours après cette tuerie qui a provoqué la colère de la population, 72 heures après le passage du président Joseph Kabila dans la région. Le chef de l'État congolais était lundi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où se tenait une réunion de sécurité. Il devait ensuite se rendre à Beni. Lundi, le climat était morose dans la ville où la population a suivi le mot d'ordre de ville morte pendant 3 jours décrété par la société civile. Le gouvernement congolais et la mission onusienne, la MONUSCO, tiennent les rebelles musulmans ougandais ADF pour responsables d'une série de massacres qui ont fait plus de 650 morts depuis octobre 2014 dans la ville et le territoire de Beni.
En Zambie, le président Edgar Lungu a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Son rival va contester les résultats devant la justice. Idriss Fall.
D'après la commission électorale zambienne, le président sortant Edgar Lungu a été réélu au premier tour avec 50,3% des voix contre 47,6% pour son principal rival Hakainde Hichilema. Edgar Lungu, 59 ans, est donc confirmé dans ses fonctions 18 mois après son accession au pouvoir. Il a été élu en janvier 2015 après une élection anticipée pour désigner celui qui devait achever le mandat du président Michel Sata, mort de maladie en octobre 2014. À Lusaka, des concerts de klaxons et vuvuzela ont salué sa victoire et des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le succès de leur candidat. La police anti-émeute a été déployée sur les grandes artères après une campagne tendue qui a fait au moins 3 morts dans des heurts entre partisans des 2 camps. Le parti du candidat malheureux promet de porter l'affaire devant la justice pour contester des résultats qualifiés de frauduleux.
Violence au Mozambique. 6 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une voiture près de Nangué, dans le centre du pays. Des hommes armés ont arrêté une voiture, puis ont tiré jusqu'à ce qu'elle prenne feu, d'après la police, qui pointe du doigt la branche armée de la RENAMO, le principal parti d'opposition. Des survivants contredisent cette version et accusent au contraire les forces gouvernementales.
Contestation antigouvernementale en Éthiopie. La police, largement déployée dans les régions éthiopiennes Oromo et Amara, ont empêché la tenue de nouvelles manifestations au cours du week-end. L'opposition affirme que les forces de l'ordre vont même de maison en maison pour menacer les parents des manifestants.
Soudan du Sud, le président ne dit pas être opposé au déploiement de casques bleus supplémentaires dans son pays. Salva Kiir semble donc avoir assoupli sa position après l'adoption d'une résolution de l'ONU brandissant la menace d'un embargo sur les armes. Il réclame toutefois de plus amples discussions, estimant que l'aide ne devrait pas être imposée au risque de devenir une intervention qui compromet la souveraineté du pays et diminue la capacité de son équipe à gouverner efficacement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 6 morts, 4 policiers et 2 civils à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Les autorités soupçonnent le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui serait également responsable de 2 attaques la semaine dernière dans la même région, faisant au moins 8 morts. La rébellion kurde en Turquie et les opérations du gouvernement ont fait plus de 40 000 morts en 32 ans.
Au Yémen, 6 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées dans des raids contre un hôpital, selon des informations communiquées par la rébellion. L'organisation Médecins sans frontières, qui a une équipe travaillant dans cet hôpital public depuis 2015, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter.
La Jordanie, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens, a atteint ses limites. C'est la déclaration faite par le roi Abdallah II dans un entretien publié aujourd'hui dans le quotidien semi-officiel Al-Destour. Jacques Aristide.
La Jordanie est confrontée à une arrivée massive de réfugiés depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011. D'après l'ONU, le pays accueille quelques 630 000 Syriens, mais Amman les évalue à plus d'1,3 million. S'alarmant des conséquences grandissantes de cet afflux, le roi Abdallah II appelle la communauté internationale à partager cette responsabilité, car, dit-il, il s'agit bien d'une crise internationale. Et le souverain d'ajouter que même si son pays fait tout son possible pour aider les réfugiés, cela ne se fera aucunement aux dépens des Jordaniens et de leur sécurité. La situation humanitaire est particulièrement préoccupante à la frontière jordanienne, où des dizaines de milliers de Syriens sont bloqués depuis le 21 juin, date d'un attentat suicide qui a tué 7 militaires. Après cette attaque, Amman y a établi une zone militaire fermée et bloqué l'aide humanitaire. Le roi explique cette décision par la présence d'éléments extrémistes parmi les réfugiés.
Exaspération de la population à Milwaukee, dans le nord des États-Unis, après la mort d'un suspect abattu par un policier après des heurts et affrontements entre manifestants et policiers. La situation reste instable selon des sources policières. Des précisions avec Anastasie Tudiash.
Un homme de 18 ans a été grièvement blessé par balle durant de nouveaux heurts dans la nuit de dimanche à lundi à Milwaukee. Tout a commencé samedi après-midi avec la course-poursuite entre 2 suspects en voiture et 2 policiers. Les suspects ont ensuite tenté de s'enfuir à pied et l'un d'eux, Sylville Smith, 23 ans, a été abattu par l'un des policiers. Selon la police, Smith avait un casier judiciaire fourni et son arme avait été volée lors d'un cambriolage. C'est sa mort qui a provoqué la colère de manifestants qui ont caillassé des voitures de police et mis le feu à plusieurs commerces de la ville. 4 policiers ont été brièvement hospitalisés, selon le maire de la ville, Tom Barrett. Ce dernier a par ailleurs annoncé que 125 membres de la garde nationale étaient en route pour Milwaukee, tout en assurant ne vouloir les déployer que si la police le juge nécessaire. Plusieurs policiers ont été visés ou tués ces dernières semaines en marge de manifestations contre les violences policières à l'égard des Noirs américains.
En Louisiane, dans le sud des États-Unis, près de 1 700 militaires ont été mobilisés pour aider la population à faire face aux conséquences des pluies torrentielles qui se sont abattues ce week-end. On compte déjà 6 morts et plus de 20 000 habitants ont dû être évacués.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à Morgane Guiriac.
Le journal des JO sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Les premiers résultats de ce lundi.
Nouvelle médaille pour l'Afrique, celle-là elle est en argent. La Kenyane Ivine Jepkemoi a terminé deuxième de la finale du 3000 mètres steeple. On peut même dire que le Kenya a officieusement gagné l'épreuve puisque c'est la Kenyane Ruth Jabet qui court sous les couleurs du Bahreïn qui a remporté la course. En 8 minutes 59 secondes, c'est la deuxième performance mondiale de tous les temps. A noter également que Marie-Josée Talou a réalisé le meilleur temps des séries du 200 mètres pour l'Ivoirienne en 22 secondes 31 centièmes. Ça passe aussi pour sa compatriote Muriel Aouré en 22 secondes 52 centièmes. Qualifiée aussi pour le continent, la Nigériane Blessing Okagbare. En handball, les Égyptiens battus 25-31 par l'Allemagne. La Tunisie affronte ce soir la Croatie. En boxe chez les Walter, défaite en demi-finale de Mohamed Rabhi, le Marocain. Mais il s'empare quand même d'une médaille de bronze.
Usain Bolt est bien l'homme le plus rapide de l'histoire et il l'a encore prouvé cette nuit à Rio.
L'éclair Usain Bolt a encore frappé hier sur la piste au Brésil. Comme à Pékin en 2008, puis Londres en 2012, le Jamaïcain remporte la finale du 100 mètres. Retour sur ce triomphe avec Jean-Roger Billon.
Souvent lent à se mettre en route en raison de sa grande taille, Usain Bolt a fait le deuxième plus mauvais départ de cette finale. Le Jamaïcain est alors obligé de passer à la vitesse supérieure pour revenir sur les talons de l'Américain Justin Gatlin. Dans les derniers 30 mètres, Gatlin semble plafonner et Bolt en profite pour revenir à sa hauteur et dans le même mouvement, doubler son principal rival. Le Jamaïcain franchit la ligne sur sa lancée et lève aussitôt l'index de la main droite pour célébrer sa victoire. Bolt stoppe le chronomètre à 9 secondes 81 centièmes, loin de son record du monde 9 secondes 58 centièmes, mais suffisant pour entrer à jamais dans l'histoire des Jeux olympiques. Le Jamaïcain Usain Bolt a été sacré champion olympique du 100 mètres et devient le premier athlète de l'histoire à remporter 3 fois l'épreuve reine du sprint dimanche aux Jeux de Rio. Bolt, déjà sacré sur la ligne droite en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, a devancé l'Américain Justin Gatlin. Médaille d'argent et le Canadien André de Grasse, médaille de bronze.
Autre performance incroyable hier sur 400 mètres cette fois et un Sud-Africain qui décroche la médaille d'or et bat le record du monde.
Van Niekerk, 24 ans, déjà champion du monde 2015, a devancé les deux derniers champions olympiques, le Grenadin Kirani James en 43-76, sacré en 2012, et l'Américain LaShawn Merritt, sacré en 2008 en 43-85. Wade Van Niekerk a battu le record du monde de l'intouchable Michael Johnson, un record vieux de 17 ans. Il a remporté la finale en 43 secondes et 3 centièmes lors de ce 400 mètres.
Les autres résultats de la nuit dernière, ce dimanche, pour les Africains à Rio.
L'Éthiopienne Kenzebe Dibaba, championne du monde en titre et détentrice du record du monde, s'est qualifiée pour la finale du 1500 mètres en dominant la seconde demi-finale en 4 minutes 3 secondes et 7 centièmes. La finale est programmée dans la nuit de mardi à mercredi. En handball, battue par les Espagnols 22-26, les Angolaises affronteront demain les Russes en quart de finale. Et puis nouvelle défaite du Sénégal en basket féminin 88-95 face à la Serbie. Astou Traoré a réussi un gros match pour les championnes d'Afrique avec 30 points. Déjà éliminées du tournoi olympique, les volleyeuses camerounaises ont une nouvelle fois été complètement dépassées hier. Lors de leur dernier match, elles ont essuyé 5 défaites en 5 rencontres. Cette fois-ci, c'était contre la Corée du Sud.
Et enfin, retour sur le beau parcours des Nigérians qui se poursuit dans le tournoi de football.
Belle victoire 2-0 des Super Eagles face aux Danois ce week-end. Le Nigeria s'est qualifié avec brio pour les demi-finales où il affrontera l'Allemagne. Ce sera après-demain. Les détails avec Thierry Kambundi à Rio pour notre radio partenaire Top Congo.
Amené par le capitaine John Obi Mikel qui a montré l'exemple en ouvrant le score dès la 15e minute, les Nigérians ont ensuite corsé l'addition à la 59e par Aminu Umar, une nouvelle fois sur un service de John Obi Mikel, buteur et passeur décisif pour écarter le Danemark et se qualifier pour les demi-finales. Ce mercredi 17 août à Sao Paulo, l'équipe du Nigeria, entraînée par Samson Siasia, affronte l'Allemagne, tombeur du Portugal en quart et meilleure attaque de ses JO avec 19 buts en 4 matchs. Vainqueur du tournoi et médaillé d'or en 1996, le Nigeria peut encore, 20 ans après la génération Nwankwo Kanu, rêver de la plus belle des récompenses à ses JO. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On rappelle Morgane qu'au classement des médailles, les États-Unis sont premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Nathalie Barche.
Le Nigeria est soudainement devenu un pays pauvre, a déclaré samedi le président Muhammadu Buhari, déplorant le recul de la première économie africaine qui a perdu sa place au bénéfice de l'Afrique du Sud. Sa capacité de production d'électricité s'est effondrée en quelques années de 6 000 à 2 500 mégawatts. L'industriel Aliko Dangote souhaite créer une raffinerie de 14 milliards de dollars pour réduire le déficit énergétique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est dit prêt samedi à mettre en œuvre des réformes économiques draconiennes, deux jours après un accord préliminaire de 12 milliards de dollars avec le FMI. Le gouvernement a déjà réduit les subventions pour l'électricité, entraînant une montée des prix. La Banque centrale a été contrainte de dévaluer la livre de près de 15% face au dollar en mars. Le pôle société civile du comité de pilotage de la COP 22 a débuté ce week-end une série de rencontres en Afrique pour mobiliser les acteurs non gouvernementaux à la conférence sur le climat à Marrakech en novembre. La première phase de cette mission concerne le Cameroun, la RDC et le Rwanda, entre autres pays.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Michel Joseph et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, Niamey.
Revirement politique au Niger, Michel, le MNSD, le Mouvement National pour la Société de Développement, la troisième force de l'opposition, a décidé ce week-end de se rallier au camp présidentiel. Ce parti de l'ancien président Mamadou Tandja faisait partie de la COPA 2016, la coalition de l'opposition qui conteste jusque-là la réélection du président Mamadou Issoufou lors de la présidentielle de mars dernier. Cette décision du MNSD a été prise samedi à l'issue d'un vote des membres du bureau politique du parti, comme nous l'explique Adamou Idé, secrétaire adjoint à la communication du MNSD Nasara.
Il y avait 148, il y avait 144 oui contre 4 non. Alors, majoritairement, vous voyez la tendance qui est dégagée. Le MNSD Nasara est favorable pour attraper la main tendue du président de la République.
En décidant de participer au gouvernement, du coup, vous laissez tomber les positions de la COPA, la coalition de l'opposition qui avait conditionné toute participation à un gouvernement d'union nationale, à un dialogue et à une transition.
Non, au début, vous savez très bien l'objectif de la COPA, c'était une commission créée pour l'alternance. L'alternance n'ayant pas eu lieu, nous avons le libre choix, n'est-ce pas, de nous prononcer, nous, MNSD, en toute souveraineté. Donc, nous pensons que les travaux de la COPA étaient terminés après les élections. Donc, nous ne sommes pas obligés de continuer à vivre sous les selles de cette COPA-là.
Mais la COPA ne reconnaissait pas la réélection de Mahamadou Issoufou, disant que ce n'était pas des élections transparentes.
Mais justement, c'est après tout ça, après cette décision, que les députés ont rejoint l'Assemblée nationale. Et les députés, c'est tous les députés de la COPA. Mais finalement, il y a l'intérêt national qu'il faut viser. Aujourd'hui, le Niger est dernier. Nous n'allons pas continuer à être dernier. Et on ne crée pas un parti, s'il vous plaît, pour rester dans une opposition. On crée un parti pour gérer le pouvoir.
Oui, et si on reste donc dans cette logique, est-ce que vous lanceriez un appel à vos camarades de la COPA de peut-être se réunir pour décider comme vous l'avez fait?
Bon, vous savez très bien que le président de la République a tendu sa main à tous les fils, c'est-à-dire à tous les partis politiques. Mais les autres partis peuvent répondre, pourquoi pas? Il y a deux choses qui nous ont conduits à ce choix. D'abord, il y a l'intérêt de notre parti. Il y a aussi de l'autre côté l'intérêt général de la nation. C'est vrai, c'est un partage de pouvoir qu'on va faire. Moi, je ne vois aucun problème si les fils du pays s'entendent pour construire leur pays.
Adamou Idé, secrétaire adjoint à la communication du MNSD Nasara, joint à Niamey par Bagassi Koura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Congo-Brazzaville célèbre le 56e anniversaire de son indépendance, l'occasion pour le gouvernement d'organiser les festivités à Madingou, dans le sud, où de nombreuses infrastructures ont été construites pour l'occasion. De nouvelles routes bitumées améliorent la vie des populations dans la Bouenza. Le reportage de notre correspondant Ngualang Goussou.
Les populations de la Bouenza ont dans leur majorité salué ce désenclavement grâce aux nouvelles routes bitumées, des infrastructures construites à l'occasion de la célébration tournante de la fête de l'indépendance et qui assure aujourd'hui la fluidité des transports.
Le transport ici est un peu difficile parce que mauvais état de route et or maintenant c'est rapide et on peut faire aller-retour à Brazzaville. 350 km aller-retour.
C'est appréciable, hein, parce que là, je viens de Caï, et avec ma moto, j'ai fait que 28 minutes, pratiquement 30 minutes, alors qu'hier, c'était pas comme ça. Hein, hier, il faut purger pratiquement au moins 2h, 3h de Caï à Madingou.
Pour le préfet de la Bouenza, Célestin Tombekende, ces routes ont modernisé les conditions de vie des populations qui vivent dans son département. La Bouenza est un département à vocation agricole. Le manioc, le foufou, l'igname, la banane ou l'arachide poussent même sur du roc, affirment les agriculteurs avec ironie. Avec la route, la commercialisation de ces produits agricoles est donc assurée.
Mais justement, la route est faite comme ça, là. Hein? Ça profite aux parents cultivateurs. Hier, il y a des marchandises. C'est vrai que les parents cultivaient, mais il n'y avait pas moyen de faire sortir les marchandises dans des grandes villes.
Ces travaux ont coûté 90 milliards de francs CFA sur 500 milliards prévus cette année. Ce n'est qu'un processus, a rassuré le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. L'évêque catholique de la Bouenza, Mgr Daniel Mizonzo, qui sillonne régulièrement le département, rappelle tout de même que ces efforts doivent se poursuivre.
Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, particulièrement les ponts. Je pense, j'avais fait le tour à Bokosongo, mais à Bokosongo, même les tournées, on ne peut pas le faire, même à Jakarta, parce qu'il y a des ponts qui sont cassés, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais j'espère que les responsables des municipalités et des districts pensent, c'est tous ceux qui se positionnent pour les législatives et les locales. Ils doivent penser à des routes.
De Madingou dans la Bouenza, Ngualang Goussou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Fin hier à Montréal, au Canada, du Forum social mondial organisé pour la première fois dans un pays développé. Mais la majorité des invités, Michel, surtout des Africains, n'ont pas eu leur visa pour y participer.
En effet, Gabi, parmi eux, l'ancienne ministre malienne et activiste altermondialiste Aminata Traoré. Que peut-on retenir de ce forum qui a duré 3 jours? Eric Manirakiza a joint à Montréal l'éditeur et rédacteur en chef du magazine transatlantique, Chika Kanyuri.
La conclusion la plus intéressante, c'est d'abord l'implication de sociétés civiles dans les changements sociaux et politiques même, et aussi la coordination, notamment au niveau des syndicats à travers le monde entier, pour essayer de voir comment ensemble ils peuvent changer la situation des travailleurs. Savoir comment avoir des renseignements réels sur des multinationales qui travaillent dans plusieurs pays, savoir comment négocier ensemble, et c'est dans ce cas-là qu'ils ont demandé de créer un portail Internet qui puisse mettre toutes ces informations ensemble pour réunifier plusieurs syndicats dans plusieurs pays.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'implication des sociétés civiles dans la gouvernance. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui?
C'est qu'au moins ça donne des résultats. Les sociétés civiles se sont souvent impliquées, mais comme on l'a dit par exemple avant une affaire comme le Brésil qui a donné Lula, personne n'avait prévu ça. Comme aujourd'hui en Afrique, on l'a dit, ce qui est arrivé au Burkina Faso et autres. Ça n'a pas toujours été ça. Même ici, puisqu'on a osé aborder certaines questions qui très souvent n'étaient pas traitées, comme par exemple la situation des Amérindiens ici. Au Canada, vous avez que même le mouvement Black Lives Matter des États-Unis était représenté ici. Et ce qui a fait, par exemple, qu'on a posé même la question du racisme même au Québec, au Canada. Que très souvent, on essaie, pendant longtemps, les gouvernements font semblant comme si ça n'existait pas.
Pourtant, plusieurs acteurs de la société civile ou même des syndicats n'ont pas eu la chance de participer à ce forum parce qu'ils n'ont pas eu de visa.
Ça a été le plus grand problème, d'ailleurs, dès le début du forum. Et ça n'a pas bien servi le Canada. Il y a, par exemple, Mme Aminata Traoré, l'ancienne ministre malienne de la Culture, qui est une militante altermondiste très, très connue. Ce qu'en fin de compte, ça a donné une visibilité médiatique au forum qui n'aurait probablement pas eu sans cet incident.
Chika Kanyuri, à Montréal.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump présente dans l'Ohio sa politique étrangère et son plan pour combattre le groupe État islamique. Il s'agissait aussi pour M. Trump de recentrer le débat électoral après les multiples controverses qui ne cessent de brouiller son message. Timothée Donangmaï.
Eh oui, Gabi, vous vous rappelez, le candidat républicain Donald Trump avait suscité une vive controverse ici aux États-Unis en déclarant que le président Barack Obama et la secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, candidate démocrate, sont les fondateurs du groupe État islamique, c'est-à-dire que leurs politiques ont créé un vide qui a permis à ce groupe d'émerger, des propos qui avaient valu à Donald Trump beaucoup, beaucoup de critiques ici aux États-Unis, tant de la part des démocrates que de certains républicains. Aujourd'hui, Donald Trump présente son programme de lutte contre le groupe État islamique. Il a d'abord rappelé les faits du siècle dernier. Il a dit que les États-Unis ont défait le nazisme, le fascisme et que la menace de nos jours, c'est le terrorisme. Et à cette occasion, il a rappelé diverses attaques ici aux États-Unis, Fort Hood, Boston, San Bernardino, ainsi que l'attaque de juin à Orlando qui a fait 49 morts dans une boîte de nuit gay. Donald Trump a aussi parlé de diverses attaques terroristes en France, en Belgique, en Allemagne, entre autres. Il a dit que les atrocités du groupe État islamique se constatent partout, avec des exécutions, des victimes brûlées vivantes, des chrétiens persécutés et chassés de chez eux. Tout cela, a-t-il dit, dans une campagne de génocide. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, a martelé Donald Trump. Il a aussi dit ce soir que l'idéologie de l'islam radical et son oppression ne doivent pas prospérer. Mais il a dit que nous n'allons pas défaire notre ennemi en gardant les yeux fermés sans nommer cet ennemi. Et Donald Trump a dit que l'émergence du groupe État islamique, c'est le résultat direct des politiques du président Obama et de Mme Hillary Clinton. Et il a dit qu'aujourd'hui, on constate que la Libye est en ruine, le chaos prévaut en Irak et selon lui, le groupe État islamique s'est propagé dans 7 pays et est opérationnel selon son propre décompte dans 20 à 30 pays. Il a aussi dit que l'accord nucléaire avec l'Iran, qui est le principal soutien, selon lui, de l'islam radical, place maintenant ce pays dans la voie de l'arme nucléaire. Alors Gabi, le candidat républicain a évoqué le discours du président Obama aux musulmans au Caire en 2009. Selon Donald Trump, le président Obama a manqué le courage de dénoncer l'oppression des femmes, des homosexuels dans ces pays musulmans, de même que le financement par certains de ces pays, selon lui, des activités terroristes. Il a tenté, il a accusé le président Obama d'avoir tenté d'établir un parallèle entre les valeurs morales de ces pays et celles des États-Unis.
Merci, Timothée Donangmaï. C'est la fin de cette édition. Nous disons merci à Georges Léonard Sagnot qui en a assuré la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Michel Joseph et chérubin Gabi Dorsil. Ainsi va
le monde aujourd'hui. Ah. Merci Gabi. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos près de 1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.